des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison, les vacances sont à nos portes et du coup on a décidé de placer cette émission sous le signe de l'enfance, de l'imaginaire en action, de l'échappée, avec trois auteurs qui incarnent le meilleur de ce qu'on appelle pudiquement, parfois, la littérature jeunesse, un genre injustement cantonné aux marges, alors que de ces livres et de leur qualité va dépendre souvent la création d'un imaginaire, d'une personnalité et même d'une conscience, si l'on en croit le Jean-Jacques Rousseau des Confessions. J'ignore ce que je fis jusqu'à 5 ou 6 ans, je ne sais comment j'appris à lire, je ne me souviens que de mes premières lectures et de leur effet sur moi, c'est le temps d'où je date sans interruption la conscience de moi-même. Bonjour Timothée de Fombelle.
Bonjour.
Vous êtes en face de moi, légèrement sur la gauche. Vous êtes d'accord avec la phrase de Rousseau, « Notre conscience de soi naît au moment où l'on s'engouffre dans la première lecture ».
Je suis parfaitement d'accord, mais de l'autre côté de cette feuille très fine de la lecture, il y a l'écriture. Il y a, pour moi, eu immédiatement l'invention qui venait avec la découverte d'un... C'est je rebondissais sur les livres que je lisais. Et ça, je l'ai senti à ma première lecture. Et ça, c'est quand même incroyable. Cette littérature pour la jeunesse, c'est une fabrique du lecteur, vraiment. C'est une sorte d'usine à fabriquer des lecteurs. C'est pour ça que c'est extraordinaire que vous leur ouvriez la porte.
Voilà, ouais. La porte de l'usine. Alors, ouais. Voilà, c'est bien. Vous êtes l'auteur, Timothée de Fombelle, de bien des livres pour la jeunesse. On peut citer Van Gogh, roman d'aventure troussé comme une course-poursuite dans l'autre de guerre. Victoria rêve. Victoria, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut une vie d'aventure et dans l'existence de laquelle un monde imaginaire va débarquer comme descendant en rappel depuis les pages des livres de sa bibliothèque, et puis du mythique Toby Lolness qui est devant moi, énorme livre, une somme, qui ressort chez Gallimard Jeunesse et qui compte les aventures d'une population minuscule qui vit dans les arbres. Alors c'est extrêmement bien écrit, c'est aussi une histoire qui nous ramène à la grande tradition littéraire puisque vous reprenez le mythe d'un peuple miniature, en l'occurrence ici, qui vit sur les branches d'un arbre, un peuple invisible des humains. Alors, c'est un mythe qui est moins populaire que son antagoniste, si je puis dire, le mythe des géants, mais qui est très présent en littérature, avec les pygmées évoqués dès Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, jusqu'au Lilliputien de Swift. Pourquoi avoir choisi de reprendre ce motif de la population minuscule qu'on ne voit pas, nous, autres grands humains?
Je pense qu'il y a la trace de mes lectures, sûrement, Roald Dahl, les minuscules, tous ces peuples. Les Anglais, quand ils ont traduit le livre, et ils m'ont dit « mais vous faisiez allusion aux chapardeurs, là, les borrowers ». Et alors, je n'avais pas lu ça, mais il y avait quand même cette trace, c'est sûr. Mais il y a mon rapport d'enfant à l'arbre et mon rapport d'enfant aux minuscules. Je pense que c'est... Avant tout ça, plus encore que mes lectures, il y avait cette trace de des jours où je grimpais dans les arbres et où je regardais l'écorce en y plaquant le nez et ça devenait tout d'un coup des cratères, des canyons.
Bonjour François Place.
Bonjour.
Vous êtes à la gauche de Timothée de Fombelle. Je disais que son livre était très bien écrit, il est aussi très bien dessiné et par vous. Alors, non seulement vous dessinez François Place, mais vous écrivez. On vous doit Les Derniers Géants chez Casterman où vous allez aux antipodes de Timothée de Fombelle cette fois-ci, puisqu'il s'agit de géants, mais aussi de cette somme mythique, absolument magnifique, Atlas des géographes d'Orbae en 2 tomes. Alors, c'est une somme, hein, je disais, 26 récits. Depuis le pays de la rivière rouge jusqu'au désert des tambours, du pays de Nilandar aux côtes de Jade, du pays des Amazones à l'île des géants. C'est somptueux, c'est un vrai monde que vous créez, que vous nous donnez à explorer à travers donc ces récits dont je parlais. Il y a des cartes, il y a des dessins, il y a les planches d'une véritable encyclopédie imaginaire d'us et coutumes enfouies que vous réveillez pour nous. C'est vertigineux. Je me demandais, François Place, pourquoi continuer à illustrer parfois pour les autres, hein, puisque parfois c'est dans le cas de Orbae, c'est pour vous-même, alors que vous êtes capable de créer des mondes, quoi. Pourquoi aller chez Timothée de Fombelle ou d'autres?
Parce qu'on m'a proposé le manuscrit, et puis donc j'ai eu la chance de lire presque parmi les premiers. Évidemment, c'est un monde fantastique, celui qu'a imaginé Timothée. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est vrai que c'est à hauteur d'enfance, vraiment. On est, dès qu'on lit les premières pages, on se retrouve littéralement en culotte courte et on a les genoux écorchés, quoi. C'est très très rapide, son entrée en matière. Et je pense aussi que tous les enfants ont conscience que la nature déploie des mondes infinis, pas simplement ceux qu'on voit immédiatement, mais ceux qui sont tout petits.
Mais encore une fois, vous pouvez le faire pour vous, pour vos livres à vous. Pourquoi ?
Je suis pas égoïste.
Qui illustre qui d'ailleurs, Timothée de Fombel ?
C'est une très bonne question. J'ai de temps en temps, quand j'écrivais le tome 2, j'avais déjà vu les dessins de François, et je me disais, il s'avança avec son costume à rayures, et je me dis, mais pourquoi il est à rayures, son costume? Et je regardais les dessins du tome 1, et je me disais, mais voilà, c'est François qui m'a mis ça dans la tête, cette andouille.
Voilà. Bonjour Élise Fontenaille.
Bonjour.
Vous êtes à ma gauche, à la droite de Timothée de Fombel. On vous connaît. Alors, comme écrivain, j'allais dire pour les adultes, c'est-à-dire pas forcément pour la jeunesse, hein. Malheureusement, on vieillit. On se souvient notamment des Disparus de Vancouver qui avaient obtenu le prix Herman Chatrian, de Unica, auréolé du Grand Prix de la SF 2008 ou du Blue Book. Il est avec moi aussi là sur ce plateau qui revient sur l'occupation par l'Allemagne à la fin du 19e siècle de l'actuelle Namibie. C'est un très très beau livre. Voilà, provoqué par l'histoire familiale, notamment celle de votre arrière-grand-père paternel, le général Mangin. Et vous publiez aux éditions du Rouergue un livre qui cette fois s'adresse aux adolescents, mais aussi aux adultes, La dernière reine d'Haïti. Les libraires nous en parlent très souvent hein, quand ils viennent ici dans le temps des libraires. Puisque vos livres ont l'art de raconter, Élise Fontenaille, comme on retourne un gant, une autre histoire que l'histoire officielle. Et c'est le cas ici, puisque vous choisissez de raconter la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais en prenant le point de vue d'un jeune homme, en fait, de cette tribu Taïno, et sous l'angle des massacres perpétrés sur ces populations locales par les conquistadors. Est-ce que ce projet est né d'une prise de conscience et de la volonté de vous inscrire en faux contre une tendance, peut-être, qu'on a à raconter aux jeunes gens une histoire, sinon fausse, du moins partielle ?
En fait, j'ai fait des études d'anthropologie à Toulouse et c'est vrai que c'est une de mes grandes passions et j'adore révéler ce qui est caché. Mais dans tous les domaines, aussi bien adulte, je vais brûlement sur la déchristianisation chez Grasset, etc., etc. C'est la même démarche. J'adore sortir ce qui est oublié, caché, ce qui met mal à l'aise. Et là, c'est la face cachée de la découverte de l'Amérique, ce qu'il y a derrière l'héroïsme. Et en général, c'est assez effroyable. J'aimerais raconter que des belles histoires magnifiques.
Derrière l'héroïsme, disons des conquistadors, voilà, des grands conquérants, des grands découvreurs.
Mais c'est surtout, en fait, ce livre a une histoire assez intéressante. J'étais invitée là-bas par Madame l'ambassadeur blabla pour rendre hommage aux trois sœurs Mirabal qui étaient des jeunes femmes extraordinaires. Je suis revenue, j'ai écrit un livre, Les trois sœurs et le dictateur, et je suis allée le reporter un an plus tard pour le lire dans leur jardin natal. Et c'est là, en furetant dans toute l'île, que j'ai découvert l'histoire des Taïnos.
Les trois sœurs Mirabal, rappelez quand même.
Ces trois jeunes femmes héroïques qui ont été assassinées un 25 novembre par le dictateur Trujillo, et c'est en leur hommage qu'on a créé la journée du 25 novembre, lutte mondiale contre les violences faites aux femmes. Mais en fait, la dernière reine d'Haïti est née de mon retour dans cette île qui est l'île Saint-Domingue-Haïti. Et en allant partout, en discutant avec tout le monde, j'ai découvert que 5 siècles plus tôt, il y avait plus d'un million d'Indiens Taïnos quand Christophe Colomb et son frère et
Bartholomé
sont arrivés. Et 20 ans plus tard, il n'y en avait plus un seul.
Alors, je citais Rousseau à l'orée de cette émission. Je voudrais aussi citer l'auteur de la Belle et la Bête, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui dans Éducation complète ou abrégée de l'histoire universelle, paru en 1762, disait « Rien n'est d'une si grande conséquence que le choix des livres qu'on met entre les mains des jeunes gens, l'impression qu'ils reçoivent de leur première lecture, ne s'efface presque jamais. » Et c'est vrai que, comme en attestent ces témoignages, il y en a d'autres, hein, Marguerite Yourcenar aussi, qui parlait de ce miracle banal et progressif qu'était la découverte de la lecture, souvent ces écrivains attestent du fait que quand on commence à lire, évidemment, se façonne profondément en fait l'imaginaire des individus. Est-ce que vous êtes, chacun d'entre vous, conscient de cette incroyable responsabilité qui pèse sur vous, quoi? Grâce à vous, grâce à vos mots, vous allez être les premiers à travailler cette matière souple qu'est l'imaginaire d'un enfant. François Place.
Honnêtement, non. j'aimerais bien. Non, c'est une trop grosse responsabilité de penser ça. Je m'adresse plutôt peut-être à l'enfant que j'étais, aux envies que j'ai de faire des livres tels que j'aurais pu les imaginer. Mais c'est très très difficile de se mettre à la place d'un lecteur et d'imaginer à qui on s'adresse. Un éditeur m'avait dit une phrase que j'ai retenue qui me semble plutôt juste, c'est de dire il faut offrir les histoires. Veiller à ce que l'histoire puisse vraiment se lire avec plaisir, offrir un plaisir de lecture, ça c'est important. Mais dans le plaisir de lecture, il peut y avoir des choses terribles, il peut y avoir des choses tristes, c'est pas nécessairement des choses amusantes, etc. Enfin, c'est pas du Walt Disney, quoi. Il faut que cette écriture emporte le lecteur, il faut vraiment le prendre par la main, l'emmener quelque part.
Effectivement, il y a le plaisir de lecture qui est un cap, mais ne pas oublier que l'enfant aime grimper haut et difficilement et dans la sueur, il aime pas que la descente en luge et il aime la complexité. Et ça donne un champ de possible et de liberté immense quand on écrit pour les enfants. C'est qu'il y a justement tout cet axe du plaisir qui, de toute façon, ça c'est, je m'adresse à moi, lecteur, à vrai dire, j'ai besoin d'être tenu, j'ai besoin d'être attrapé à la première page et qu'on ne me lâche pas jusqu'au bout. Et en même temps, j'ai besoin qu'une fois cette promesse du plaisir faite, qu'on m'emmène là où je n'attendais pas aller et qu'on...
Aller et emmener, peut-être. Est-ce qu'il y a des endroits où on se dit, quand on s'adresse aux jeunes gens, qu'on ne peut pas peut-être les emmener là, ou en tout cas on se pose la question, va-t-on les emmener jusque-là, Élise Fontenay?
Moi, je fais confiance à mon instinct. Et je suis une adolescente attardée, j'en suis très fière. En fait, j'ai grande confiance en l'intelligence des enfants et des adolescents, leur empathie, leur finesse et leur capacité d'indignation. Parce que je me souviens encore comment j'étais à 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'étais au top depuis, je ne cesse d'échoir. Mais non, j'ai beaucoup d'estime pour mes jeunes lecteurs, en fait.
Ce qu'on remarque là, c'est que tous les trois, on a cette... finalement, simplement cette mémoire de l'enfance. Je crois que c'est ça, c'est on a un pied dans l'enfance, on a encore un genou écorché, effectivement. Et c'est peut-être le seul point commun, moi, que je remarque parmi cette faune des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse.
Est-ce qu'on n'a pas l'âme écorchée aussi, peut-être un peu? Qui sait, avec les genoux.
D'Élise Fontenay, qu'est-ce que vous en pensez, François Place? Très belle question.
L'âme écorchée, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, je pensais dans ce que disait Timothée à un mot de Pierre Michon qui disait qu'il faut offrir aux enfants des textes en surplomb, mais en surplomb chantant. Donc je crois cette idée aussi que le texte, que la lecture est une pratique parfois difficile, que l'acquisition du vocabulaire, de la syntaxe, etc. sont des apprentissages longs. Qu'il faut arriver à une certaine mobilité dans la lecture pour en tirer du plaisir, c'est important de ne pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire des textes volontairement simples ou simplifiés, parce que c'est une erreur grave. En fait, il faut leur apprendre à aimer la langue. Et l'apprentissage de l'amour de cette langue passe par la complexité, oui. Mais, voilà, chantant.
C'est-à-dire qu'au moment de choisir la langue avec laquelle vous allez vous adresser à ce public plus jeune qu'un public adulte, vous êtes conscient qu'on ne doit pas justement adapter, vous êtes obligé quand même d'adapter votre façon d'écrire, d'autant que Élise Fontenay, vous écrivez aussi pour les adultes. Il y a quand même un choix, un moment, dans la langue de l'écrivain qui fait qu'on se pose des questions qu'on ne se pose pas quand on s'adresse à des adultes.
Oui, mais la beauté dans la simplicité. C'est Aragon qui m'a appris à écrire, vraiment, et la beauté dans la simplicité, je le sais, depuis l'enfance.
Oui, mais quand même, moi je me dis, là c'est récemment, depuis un certain temps, je commence à me dire que qu'écrire n'est pas... c'est pas transitif, écrire est intransitif. Je crois vraiment qu'on écrive un roman pour les adultes ou qu'on écrive un roman pour la jeunesse, on est quand même le même qui écrit, on est vraiment le même. Et que l'eau qu'on utilise pour boire ou pour arroser une plante ou pour laver sa bagnole, c'est la même eau et voilà.
En fait, c'est bien, quand tu parles d'eau, Timothée, oui, pour moi, écrire pour la jeunesse, c'est un ruisseau. C'est créer un ruisseau de mots, vraiment. Donc il faut la fluidité, la rapidité, ruisseau qui devient torrent, qui se calme et qui s'élance. Et c'est vraiment le ruisseau.
Mais je pense à François Place, au Dernier Géant, hein, qui est sorti chez Casterman, qui est un de vos livres aussi les plus connus, qui raconte un voyage chez ces géants et un émerveillement d'un homme normal, d'un explorateur devant ces géants, qui se termine quand même par des décapitations et des massacres. Ça, au fond, on se dit, allez, on va les emmener là-bas et on va parler. Il y a le dessin aussi qui parle, dans votre cas. Et on va aller sur ces sujets aussi graves parce que vous dites, je ne pense pas à eux, mais en même temps, je vais oser les emmener dans cette région-là aussi.
Oui, honnêtement, je pense qu'on peut aborder toutes sortes de sujets. Je pense à un livre de Stevenson, Le Maître de Ballantrae, où il se pose la question de l'empreinte qu'un génie du mal peut avoir sur la jeunesse, puisque c'est une espèce de personnage négatif. Comme chez Stevenson, il y a toujours le côté Jekyll et Mr. Hyde, positif, négatif, etc. Mais dans ce livre, on voit bien le charme aussi du monde noir qui accompagne le monde éclairé. Donc les enfants, ils en ont conscience très très rapidement de ça. Après, la façon dont on l'aborde, dont on en parle, dont on l'illustre, là, c'est là peut-être qu'il ne faut pas être pervers, quoi. Mmh. C'est là où il faut être vraiment généreux dans ce qu'on fait.
On commence avec Timothée de Fombelle et Toby Lolness. D'abord, on va écouter votre choix musical. Vous avez choisi La Grosse Bête de Raphaël Lanader, dite Elle, hein, aussi. Elle a une double identité.
Tout à fait.
On écoute avec vous.
Les yeux enfoncés dans son bras, elle songe à ses petites sœurs, des petits cailloux dans le corps et des fourmis un peu plus bas. Elle entend les vagues qui passent et qui emmènent les familles. Ça fait un bruit de marée basse, le bonheur qu'on éparpille. Écoutez-la qui ne chante pas. Écoutez-la qui ne chante pas. On dirait qu'une grosse bête lui a avalé son orchestre. On dirait qu'une grosse bête. On dirait qu'une grosse bête.
Raphaël Lanader, La Grosse Bête, c'est le choix musical de Timothée de Fombelle. Ce sont d'ailleurs des paroles de Timothée de Fombelle.
Bravo, vous avez. Pourtant, c'est la première diffusion. C'est une avant-première mondiale.
C'est un peu préparé.
Il se trouve qu'effectivement, on a enregistré la semaine dernière cette chanson qui sera dans un projet musical, un conte musical qui paraît en novembre avec plein de gens super qui vont chanter, dont Raphaël Lanader qui a composé la musique et qui l'interprète. Et effectivement, je me suis retrouvé à devoir écrire 15 chansons. C'est pour les enfants des 6-7 ans ou même avant, mais c'est aussi complètement pour les adultes. Et il y aura aussi bien.
Et ça raconte quoi?
Alors ça raconte l'histoire d'une petite fille qui lie une amitié avec un garçon qui est de l'autre côté du mur et qui joue du violon. Et il se trouve que ce mur, l'épaisseur de ce mur est de 100 ans et que, en fait, elle est dans les années 70 et lui, il est en 1870 pendant le siège de Paris. Mais c'est vraiment aussi l'occasion de raconter des histoires avec des chansons. Et moi, je suis un fou de chansons, je suis pas du tout musicien. Il va y avoir aussi bien Alain Chamfort que Émilie Loiseau, que Moriarty, Rosemary Stanley. Et c'est vraiment un bonheur d'écrire pour ces gens-là et de retrouver une forme brève. Parce que moi, je suis
fou de
saga.
Toby Lolness, voilà, l'intégrale, c'est quand même 660
ne
pages.
Ne désespérez pas les lecteurs.
Ah ben non,
ça se dévore.
Ils n'ont pas peur d'ailleurs.
Ils n'ont pas peur. Ils les grimpent comme des Annapurna. ouais.
Alors, vous êtes l'auteur, donc je viens de le mentionner, de Toby Lolness, l'histoire d'un petit garçon de 7 ans au début de cette saga qui appartient à un peuple minuscule qui vit dans un arbre qui est son monde, qui est leur monde. Il mesure, Toby et ses congénères, entre 1,5 mm et 2 mm pour les plus robustes et majestueux d'entre eux. Il vit dans les hautes branches, les cimes qui sont réservées aux riches, tandis que les plus démunis sont cantonnés dans les basses branches. Son père est un grand savant et le jour où il fait une découverte extrêmement importante, qu'il ne veut pas révéler pour différentes raisons à la communauté, la vie de Toby bascule puisqu'il est exilé depuis ses grandes propriétés de lichen, majestueuses. Jeté, son père est emprisonné et tout ça propulse Toby qui lui s'échappe dans un torrent de folles aventures. Vous parliez de ruisseaux, Élise Fontenay, on est plutôt dans le torrent avec vous, Timothée de Fombelle. Mais aussi dans des grands questionnements sur le monde où il vit et notamment la principale, est-ce qu'il y a une vie en dehors de cet arbre, comme on se posait la question, y a-t-il une vie en dehors de ce pays ou de cette terre ou de ce continent? C'est très bien écrit, et très belles expressions, comme la nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. C'est parfois violent, les premières pages nous racontent une traque violente et plongent le jeune lecteur dans une certaine terreur parfois. J'aimerais savoir, Timothée de Fombelle, comment il est né ce personnage? Vous dites que vous qui avez fait des études de lettres, vous avez très vite senti ce qu'était la littérature sérieuse, ce que vous admirez, mais qui vous paralyse. et que finalement, le roman de jeunesse vous permettrait de faire de la littérature par surprise. Alors, comment c'est né tout ça ?
C'est né d'une histoire qui m'habitait depuis l'enfance et qui cherchait son terreau, qui cherchait l'endroit où exister, puisque moi j'écrivais du théâtre et que cette histoire est impraticable sur une scène de théâtre avec un arbre géant et des acteurs d'un millimètre et demi, c'était mal parti. Mais très vite, j'ai senti que le roman pouvait être ce nouveau théâtre. Et en fait, j'ai commencé à écrire, mais comme on raconte une histoire sans penser littérature, c'est le meilleur moyen, je crois, de faire de la littérature, finalement, de retomber dedans, de qu'elle nous rattrape, c'est de ne pas penser à la table littérature des librairies de Saint-Germain-des-Prés.
Et l'arbre, qui est quand même symboliquement extrêmement riche dans toutes les cosmogonies.
Alors ça, justement,
je tourne vers l'anthropologue Élise Fontenaille.
Je l'ai découvert petit à petit, ça, plutôt quand le livre est paru, à quel point cet arbre m'avait aidé dans ce premier roman, ce qui était un premier roman, ce qui était très casse-gueule, un truc très ambitieux. Et j'ai découvert en me baladant, en allant pour voir ce qu'il a été traduit à peu près partout, au Brésil ou au Vietnam, à chaque fois l'arbre. C'est pour ça que je ne dis à aucun moment quel arbre c'est. C'est mon copain François Place qui est à ma gauche, qui a décidé de faire la feuille de chêne et qui m'a enfermé dans une essence
occidentale.
Occidentale. Non, même si je m'en réjouis.
Je voulais un saule pleureur.
Je savais qu'effectivement, il fallait quand même un arbre à feuilles caduques. Il y avait quelques règles et fallait un peu. Il y a de la neige aussi, à un moment.
Mais c'est vrai que l'arbre est aussi une métaphore du roman, de façon, oui. Avec ses ramifications, ses personnages, ses intrigues, ses sous-intrigues.
C'est vraiment ça. Et moi, je construis effectivement mes livres comme ces arborescences, en essayant simplement qu'on arrive à retrouver le tronc central de temps en temps.
Je voudrais qu'on vous entende lire, c'est le début de Toby Lolness, donc ces pages qui peuvent terrifier parfois et fasciner en même temps, c'est l'histoire d'une traque, ça commence par une traque.
Et ce premier chapitre s'appelle Traqué. Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Seul le bout de ses pieds dépassait du trou d'écorce. Il ne bougeait pas. La nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Toby regardait le ciel percé d'étoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que celle qui s'étalait par flaques entre les énormes feuilles rousses. Quand la lune n'est pas là, les étoiles dansent. Voilà ce qu'il se disait. Il se répétait aussi, s'il y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant, oui, moins émouvant. Toby se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse. Il sentait le froid des larmes sur ses cheveux près des oreilles. Toby était dans un trou d'écorce noire, une jambe abîmée, des coupures à chaque épaule et les cheveux trempés de sang. Il avait les mains bouillies par le feu des épines et ne sentait plus le reste de son petit corps, endormi de douleur et de fatigue. Sa vie s'était arrêtée quelques heures plus tôt et il se demandait ce qu'il faisait encore là. Il se rappelait qu'on lui disait toujours cela quand il fourrait son nez partout. « Encore là, Toby !» Et aujourd'hui, il se le répétait à lui-même tout bas. « Encore là !» Mais il était bien vivant, conscient de son malheur plus grand que le ciel. Il fixait ce ciel comme on tient la main de ses parents dans la foule à la fête des fleurs. Il se disait, si je ferme les yeux, je meurs. Mais ses yeux restaient écarquillés au fond de deux lacs de larmes boueuses.
Merci Timothée de Fombelle. Ce sont la première page de Toby Lolness, donc qui reparaît en somme chez Gallimard Jeunesse. Je voudrais savoir comment, puisque c'était votre premier roman, et que vous l'avez, je crois, envoyé à la fois à la branche adulte de Gallimard
et la branche
jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette branche plutôt qu'une autre ?
Vous parlez de branche, justement.
Oui.
Pour ce livre-là, sincèrement, je n'ai pas choisi. J'ai effectivement écrit ce roman exactement comme je le rêvais. Et j'ai senti, petit à petit, en écrivant, que l'endroit où il pourrait pousser, où il pourrait exister, serait probablement la littérature jeunesse.
Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de...
Parce que, d'abord, la littérature jeunesse se fout des genres. Enfin, elle aime tous les mauvais genres, elle les mélange, et donc il n'y a pas ces catégories
dans lesquelles, qui hoche la tête.
Dans lesquelles on a tendance à ranger les livres. Et puis, peut-être qu'elle se prend un tout petit peu au sérieux, c'est-à-dire elle crée un objet plastique.
Oui, mais dans la tradition, quand on regarde les Mystères de Paris, le grand roman en fait qui a fondé, d'ailleurs qui fascine encore les romanciers américains aujourd'hui, c'est-à-dire le roman français du 19e siècle, il n'était pas cantonné à un genre,
non.
On pouvait tout se permettre.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose, c'est une perte qui s'est faite petit à petit pour moi. C'est que d'ailleurs d'autres littératures, anglo-saxonnes en particulier, ont moins fait, moins, voilà, mais La grande littérature française aujourd'hui est quand même souvent une littérature introspective, qui est d'ailleurs la littérature qui m'intéresse à vrai dire, mais je la fais à travers ce filtre de la saga, de l'aventure et de ce torrent des péripéties.
Voilà. Et quels sont les mentors de ce livre, justement, à qui Toby Lawlness doit sa paternité en dehors de ce que vous lui avez donné, vous, Timothée de Fombelle?
En lisant la première page, je sentais un de mes premiers mentors, qui est Rimbaud, parce que c'est vraiment... J'ai ce parrainage du petit Val qui mousse de rayons et du soldat qui a deux trous rouges au côté droit, le dormeur du Val. Et c'est vrai que quand j'écris des romans, j'ai du mal à lire d'autres romans parce que je suis une éponge et donc je lis de la poésie. Donc je pense que, mais sinon,
Pour vous dégager des influences.
Pour être que dans la beauté et pour être dans une langue au plus près des mots. Et effectivement, si je lisais la Douane Volante, un extraordinaire roman qu'a écrit François Place, en écrivant celui que je démarre en ce moment et qui a des petites choses autour du fantastique en commun, je serais bloqué. Mais voilà,
j'espère que vous culpabilisez François Place.
Non.
Alors, il y a une langue chez vous, Timothée de Fombelle, et un jeu aussi sur la langue. Par exemple, vous expliquez à votre manière l'origine des expressions « n'être pas dans son assiette » ou encore « vieille branche ». Je vous cite « De toute façon, les candidats au voyage étaient rares. Les gens restaient souvent leur vie entière sur la branche où ils étaient nés. Ils y trouvaient un métier, des amis. De là venait l'expression « vieille branche pour un ami de longue date ». Vous vous rendez compte aussi de cette autre responsabilité, c'est-à-dire faire croire à des enfants, leur proposer de fausses étymologies.
Ouais, mais alors l'avantage, c'est que je ne...
Je crois que c'est la bonne, en fait.
C'est la bonne.
Ce genre de licence syntaxique ou de c'est, il n'y a que les imbéciles que ça désespère, donc c'est bon.
François Place, l'ouvrage est illustré par vos dessins. Comment s'est passé le choix, qui a choisi l'autre, et qu'est-ce que cela apporte selon vous, le fait que, puisqu'il y a des mots au fond, pourquoi les illustrer par des dessins?
Alors, je crois que c'est passé directement par l'éditeur, hein. C'est l'éditeur qui a proposé que ce soit illustré. Moi, j'ai reçu le manuscrit, comme j'en reçois des fois quelques-uns, et évidemment que c'est un cadeau pour un illustrateur, parce qu'il y a un monde extraordinaire à imaginer. En plus, Timothée s'attarde pas trop sur les descriptions. Il est un auteur qui est brillantissime dans les dialogues. Et puis, l'action est très rapide. Il y a de la poésie malgré tout, mais c'est très rapide. Et donc, l'arbre, je le voyais. La seule difficulté, c'était de lui donner une époque. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a certains endroits où on pourrait être au Moyen-Âge, d'autres où on pourrait être dans un monde beaucoup plus contemporain, mais avec un petit recul, une petite distance comme ça. Et moi, il y avait ce personnage de Joe Mitch qui me faisait penser à Arthur Howie, là, dans la pièce de Brecht.
C'est l'entrepreneur fou.
Oui, l'entrepreneur un peu fascisant, voilà, cette espèce de personnage qui prend le pouvoir sur l'arbre, etc. Donc j'ai eu envie de placer le livre dans les années 30 à cause de ça. Et Timothée, ça lui convenait jusque maintenant.
Qu'est-ce que devient François Place, le statut d'auteur que vous êtes aussi? Enfin, vous êtes auteur-dessinateur, on est aussi auteur de ses dessins, mais quand on dessine pour un autre, est-ce qu'on illustre seulement une œuvre première ou est-ce qu'on crée une seconde œuvre à partir de celle-ci?
Je ne sais pas, j'espère que ça ne... surtout dans un roman, il faut veiller à ce que les dessins n'arrête pas le lecteur, ne bloque pas sa lecture, ne l'empêche pas. Enfin, il faut que ce soit quelque chose d'assez léger, je pense, qui peut préciser certaines choses. Mais bon, c'est un livre qui pourrait être illustré par d'autres personnes, évidemment.
Je vais t'en parler.
De vision unique, il n'y a pas de vision unique du livre.
François Place, on va feuilleter avec vous les pages envoûtantes de votre Atlas des géographes d'Orbae. C'est publié chez Casterman. Donc c'est en deux tomes, hein, maintenant c'est réuni.
C'est
donc,
en deux tomes.
26 voyages dans une terre imaginée. En même temps, on reconnaît ça et là quelques... grâce à quelques repères, quelques civilisations disparues ou toujours existantes. Mais on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Anna Calvi, Rider to the Sea. Anna Calvi, Rider to the Sea, c'est le choix de François Place qui republie l'Atlas des géographes d'Orbae. C'est publié chez Casterman. Il est là avec nous, avec Timothée de Fombel, avec Élise Fontenay. Nous parlons de la littérature jeunesse. Pourquoi ce choix d'Anna Calvi sans parole, hein, cette fois-ci? Elle a une belle voix pourtant.
Oui, j'ai eu un petit peu peur là de choisir une musique, surtout qu'en ce moment j'écoute beaucoup de Maxime Le Forestier. Mais c'est une musique qui m'a accompagné un certain temps. J'avais eu la chance de voir le concert. On m'avait offert les places à mon anniversaire et puis j'ai vu cette silhouette longiligne, presque timide. Et dès qu'elle a joué comme ça ce morceau de guitare, j'ai senti que la salle était vraiment emportée très très loin et je pense que ça résonne incroyablement. Donc c'est vrai, on peut très très bien dessiner sur cette musique. Hein. C'est quelque chose de très envoûtant.
Vous dessinez en musique, la musique?
Ça m'arrivait, plutôt ce genre de morceau, un petit peu planant comme on dit.
Alors vous republiez, François Plage, je le disais, ce superbe atlas des géographes d'Orbae. Alors j'en parlais tout à l'heure, hein. C'est un... 26 récits en deux tomes avec vos superbes illustrations en vis-à-vis et ce sont vraiment des récits, hein, pas seulement des récits d'exploration. On se promène du pays de Nilandar aux côtes de Jade, chez les Amazones et puis chez les géants, le pays de la rivière rouge aussi. Il y a des cartes, il y a des dessins. Ces récits, on a l'impression qu'ils se situent à la fois, enfin ils sont à la croisée des chemins entre des nouvelles. Pense beaucoup aux Nouvelles Orientales de Yourcenar en vous lisant, même si évidemment son espace géographique était limité à l'Orient. On pense aussi aux contes, on pense aux récits de voyage, notamment les grands récits de voyage en Orient de Nerval, par exemple, ou de Lamartine. À l'utopie aussi, je rappelle l'étymologie d'utopie, hein, utopos, le lieu qui n'est nulle part, puisque malgré la carte finale, ces lieux, pour la plupart, ne sont pas forcément situés dans l'espace ou dans le temps. Par exemple, l'île des géants se trouverait de l'autre côté de la Terre et puis sa localisation change à chaque visite que fait le personnage. On pense aussi au récit d'explorateur. D'ailleurs, c'est pas sans rapport avec votre livre, Élise Fontenay, La dernière reine d'Haïti, puisque le pays des Yaléoutes, François Place, raconte les abus des explorateurs envers les populations amérindienne, entre guillemets. Et puis évidemment, le carnet de voyage, puisque chaque récit se clôt sur une page de dessin qui vient illustrer les costumes traditionnels, accessoires, faune, flore, rites et rituels particuliers de ces peuples. Comment vous situez cet atlas parmi ces différents genres? Qu'est-ce que vous avez voulu faire?
En fait, au départ, je m'étais intéressé à la littérature de voyage, mais y compris la littérature ancienne. Et j'étais fasciné par ces récits qui présentaient le monde. Enfin, je m'imagine que le monde, à une certaine époque, était un petit peu comme des galaxies lointaines, très éloignées les unes des autres, avec très peu de contacts entre les populations. Une face cachée de la Terre, l'autre côté du monde, de l'autre côté de l'équateur, était vraiment invisitable. Et donc, au moment où les Européens ont commencé à s'intéresser aux voyages vers l'Afrique, vers l'Asie, etc., et s'est engouffré, avec ces voyages, s'est engouffré tout un imaginaire incroyable. On a parlé de Swift, on parle de l'utopie, voilà, toutes ces histoires, tous ces contes sont liés à une espèce d'extrême horizon où on peut porter son regard. Voilà, c'est quelque chose qui est à la fois inaccessible mais qu'on souhaite atteindre. Alors évidemment, s'engouffre aussi dans ces histoires le tragique de la colonisation, de la destruction, du massacre des peuples, etc. Mais il y a une énorme part de rêve qui est liée à cette découverte du monde, un petit peu comme la fabrication d'un visage pour lequel on prendrait beaucoup de temps, parce que l'image de la Terre était balbutiante, elle n'était pas du tout figée, la géographie était un art incertain. Et si je peux raconter juste une anecdote qui m'a beaucoup plu, au moment de la conquista, lorsque les Espagnols sont partis en Amérique, etc., il y avait la volonté de faire une carte des voyages. Donc tous les pilotes à bord des navires devaient avoir un journal de bord, et c'était compilé dans une maison qui s'appelait la Casa de Contratación. Et dans cette maison, il y avait une carte secrète, la carte qui s'appelait le Padrón Real, et il y avait seulement le cosmographe major et le pilote major qui avaient la clé. Il y avait deux clés pour ouvrir la salle où était enfermée cette carte, et elle était interdite au regard profane. C'était littéralement comme un objet sacré qui dormait dans une salle. Et cette carte, en fait, portait les rêves de la découverte. C'est-à-dire que non seulement elle était interdite, mais lorsqu'on pouvait en copier pour des nécessités, certaines parties, c'était très surveillé. C'était puni de mort si on révélait les secrets qu'elle recélait. Et donc, c'est peut-être cette carte-là qui m'a donné envie de faire cet atlas, c'est-à-dire d'imaginer le monde à partir de cet endroit disparu, puisqu'il ne reste plus de traces de cette carte, secret, mystérieux, où le monde est encore à découvrir. C'est une science-fiction à l'envers, si vous voulez. Une sorte de projection à un moment où le monde est encore possible. Voilà.
Et de là viendrait le titre Orbae, qui fait évidemment référence à Orbis
Terrarum,
exactement,
Orbis Terrarum, le cercle globe, des terres.
Oui. Avec ce côté presque mystique de désigner la Terre comme un lieu de savoir aussi secret.
Oui, et je pense que la difficulté était de trouver une forme pour l'écrire et l'illustrer, donc j'ai choisi l'alphabet. Donc du A jusqu'au Z, en me disant que les lettres de l'alphabet sont des cartes de géographie, puisqu'avec ces 26 petites lettres, on peut nommer le monde, et l'entièreté du monde est dans plusieurs langues. Donc choisir cet alphabet, en faire un monde de cartes, et en même temps, inventer des récits, des contes qui vont proposer justement ces différentes visions. Alors il y a de l'ethnographie, il y a un petit peu de tout là-dedans, c'est un petit peu le melting pot, mais...
Mais il y a aussi, il y a beaucoup de littérature. Moi j'ai pensé à Borges.
Oui, évidemment, c'est un des grands maîtres de la géographie imaginaire. Voilà. Oui, bien
et qui
sûr,
cite justement cette carte dans Histoire de l'infamie, Histoire de l'éternité, dans une carte du XVIIe siècle dont on parlait dans les Viajes des Barones Prudentes, l'histoire d'une carte qui grandirait de telle manière qu'elle finit par prendre...
Épouser le territoire lui-même.
Exactement.
Et puis tomber en lambeaux avec les vents, avec l'érosion, etc.
Alors, même si il ne s'agit pas à proprement parler de lieu réel, François Place, vos contes s'inscrivent dans un lieu géographique qu'on peut distinguer sur la carte. Mais par exemple, il y a des déplacements très intéressants, parce que pour le pays de Korakar, par exemple, qui est placé sur la carte au niveau de l'Afrique du Nord, on voit des baobabs, des paysages arides. Vous vous amusez parfois à permuter, à faire fi de la théorie des climats, au fond.
Oui, complètement. Ouais. On peut trouver un crocodile huppé dans un pays qui ressemble à la Sibérie. Donc, oui, ça c'est le... Mais je crois qu'il y a ce goût dans la géographie aussi d'imaginer le monde possible. De l'enchanter aussi, enfin je pense à l'enchantement, parce qu'on est dans un monde qui est... Je trouve que l'imagerie des satellites ressemble à l'imagerie médicale. C'est une imagerie inquiète. C'est-à-dire qu'on prend seconde après seconde le pouls de la Terre comme on prendrait le pouls d'un grand corps malade. Et cette imagerie-là, en fait, on en a besoin parce que la Terre est quand même dans un sale état. Et il y a une époque où elle était beaucoup plus, comment dire, en meilleure santé, on va dire, et où tout était encore possible de ce point de vue-là.
C'est marrant, t'entendant, tu parles de l'enfance, c'est-à-dire ce monde, ce territoire qu'est l'imaginaire et qu'est l'enfance, et cette menace du saccage, et moi je suis convaincu, alors je pourrais être le psychanalyste de François Place, vraiment, s'il veut bien.
Il s'en réjouit, visiblement.
Parce que, vraiment, moi, c'est ça, ce que je vois transpirer. Là. Aussi, j'ai eu la chance de voir des dessins qu'il a fait à 7-8 ans et qui sont les petits frères des dessins qu'il fait aujourd'hui.
Justement, vous parlez de ces dessins. Le propre de cet atlas des géographes d'Orbaé, c'est qu'il y a vos dessins, mais il y a vos textes aussi, François Place, puisque vous êtes aussi écrivain, vous enviez beaucoup d'avoir tant de talent. Comment s'articulent justement ces deux pôles, ces deux branches, pour revenir à Toby Lawlness, entre celui qui maîtrise les mots et celui qui maîtrise l'image? On pourrait se dire, au fond, ces images sont tellement précises, tellement riches qu'elles n'ont pas besoin de mots, et on pourrait se dire le contraire avec ces mots. Ils ont, au fond, pourquoi est-ce qu'ils l'illustrent? C'est très beau, mais ça nous suffisait presque.
Je pourrais presque dire que c'est le mot légende qui guide un petit peu cet atlas. La légende, c'est ce qui est nécessaire pour comprendre une carte muette. Donc en fait, ce sont des mots qui donnent des indications précises, et en même temps, la légende, ce qui doit être lu, ça fait appel au plus grand imaginaire possible. La légende, c'est le passé qui revient d'une façon mythique, etc. Donc ce sont ces deux sens du mot légende que j'ai réunis dans l'atlas, avec d'un côté quelque chose qui semble très précis, qui précise la carte, et en même temps, tout ce que la carte aussi peut, comment dire, apporter comme possibilité de rêverie, voilà.
Alors on va vous écouter lire, François Place.
Enfin, le souffle de la tourmente donna quelques signes d'épuisement. Le vent cessa de rugir et de vociférer pour chuchoter de longues et lugubres lamentations qui serpentaient entre les hautes herbes. John reprit courage et profita de l'accalmie pour se remettre debout. Il parvint à contourner l'obstacle en suivant une chaussée de pierres disjointes qui le conduisit jusqu'à une statue semblable aux pierres levées de son pays. Elle avait près de 5 fois la hauteur d'un homme. Des lianes de la grosseur d'un bras, rampait sur sa face, s'incrustait dans les failles de la roche, emprisonnait son corps d'un filet de mailles tordues et ligneuses. À quelques pas de là gisait une autre statue brisée en 3 morceaux. D'autres encore se laissaient deviner de loin en loin, dissimulées par les branchages et les fougères. Au terme d'une dernière ascension jalonnée de ces rencontres silencieuses et énigmatiques, il gagna enfin le sommet de l'île.
Merci François Place pour cet extrait de l'Atlas des géographes d'Orbaé. Je voulais vous citer, parce que ça va intéresser Élise Fontenaille, « Selon les cosmographes d'Orbaé, le visage de la Terre est aussi émouvant et mobile qu'un visage humain. C'est pourquoi les échelles de distance et de temps varient tant d'un pays à l'autre, et pourquoi aussi aucun atlas ne peut jamais prétendre en restituer la vérité, car il ne fait qu'assortir des îles incertaines à des contrées disparues. » À la fin du livre, c'est cette sorte de prière d'inséré que je viens de lire, on a l'impression qu'il faut presque lire cet atlas comme un avertissement à la jeunesse, peut-être, à ne jamais penser qu'il y a une vérité. Est-ce que c'était le but pédagogique et pourquoi pas moral de cet atlas? La vérité est mouvante, mobile, comme un visage humain, qui serait le meilleur des enseignements, au fond. Il n'y a pas de vérité.
Ah ben ça c'est sûr, oui, non, il n'y a pas de vérité. Le dernier dessin de l'atlas, c'est dans la page documentaire, c'est une indienne qui porte un bébé dans les bras, et derrière elle, les traces de pas se transforment en plantes, en petites fleurs. Je voudrais juste lire ce petit poème de Miguel Ángel Asturias. C'est lui qui m'a inspiré la fin de l'atlas. De Mixco, les Indiens descendent avec leur fardeau bleu de nuit. La ville est là qui les reçoit, avec ses rues effarouchées par un bouquet dont tous les feux s'éteignent, comme les étoiles, à l'heure du petit matin. Leurs mains, qui rament comme 2 rames dans le vent, laissent un bruit de cœur battant, et de leurs pieds s'échappent et restent les empreintes, petites plantes dans la poussière du chemin. Les étoiles qui apparaissent à Mixco restent à Mixco, car les Indiens qui les attrapent en font des paniers qu'ils garnissent de poules et de thyrse blancs cueillis sur l'isode dorée. La vie indienne est une vie plus silencieuse que la nôtre. Quand ils descendent de Mixco, on n'entend que la laine ardente qui siffle parfois sur leurs lèvres comme une vipère d'argent. » Voilà, c'est l'empreinte du pas, l'empreinte du pied, la trace des hommes, la parole.
Invitation à Élise Fontenaille aussi, non ? Ça vous parle,
évidemment. Absolument. Ce dont je suis persuadée, ce pourquoi j'écris pour la jeunesse, c'est que chaque enfant est un peuple premier. Ça, c'était une hypothèse et c'est devenu une certitude. Ouais. Ouais. Chaque enfant est un peuple premier. Et la violence, c'est qu'on nous fait entrer la civilisation de force. Voilà, et toutes ces valeurs discutables.
Voilà, on va les discuter avec vous, Élise Fontenaille, puisque vous publiez La dernière reine d'Haïti. C'est au Rouergue. Mais avant, on écoute votre choix musical, Nightwalk par Juju. Et vous nous expliquerez qui sont Juju. Nightwalk par Juju, c'est le choix musical d'Élise Fontenaille. Elle publie La dernière reine d'Haïti, et non pas Haïti, on y reviendra, aux éditions du Rouergue. Élise Fontenaille, pourquoi ce choix musical et surtout qui se cache derrière Juju ?
Juju, en fait, c'est quand l'Afrique rencontre l'Occident, pour le meilleur pour une fois et pas pour le pire. C'est Jules Dem Camara, africain, qui rencontre Justin Adams. Donc deux grands musiciens venus de deux mondes différents et qui se rencontrent dans l'harmonie.
Mais dans l'harmonie, contrairement à ce qui se passe dans La dernière reine d'Haïti, qui raconte la conquête par Christophe Colomb de Haïti, qui deviendra donc Hispaniola, hein, puisque le conquérant rebaptise pour mieux perdre celui qu'il colonise. Évidemment, vous racontez l'envers d'une histoire parfois présentée de manière idyllique et qui était tragique.
Mais comme toujours, je veux avant tout donner la vie à des peuples disparus avant de raconter leur anéantissement. Beau lapsus. Leur anéantissement. Et j'ai fait ça dans le Blue Book et dans Ébène ou les yeux de la nuit pour la jeunesse. Et là, j'ai trouvé que c'était... Vraiment, j'avais envie de redonner la vie à ces Taïnos disparus. C'est pour cela que j'écris La dernière reine d'Haïti, qui veut dire, en indien Taïnos, pays des hautes montagnes.
Voilà, et pays aussi de cocagne, paradis, disent les Occidentaux quand ils arrivent.
Bah, c'est ce qu'écrivent les prêtres qui ont assisté à cette conquête, comme Bartolomé Las Casas. Et c'est même, et j'ai mis cette lettre en exergue, ce qu'écrit Christophe Colomb à la reine Isabelle en disant que les Indiens Taïnos sont beaux, de corps et de visage, paisibles, accueillants, généreux. Je lis la lettre. Les Taïnos donnent volontiers tout ce qu'ils possèdent en échange de presque rien. Ils ne sont pas attachés aux biens matériels. Ils sont beaux, bien bâtis, aussi agréables à voir de corps que de visage. Ils ne portent pas d'armes sur eux. Ils sont de mœurs pacifiques, bienveillants et accueillants par nature, sans violence. 50 soldats suffiraient pour les asservir tous. Christophe Colomb, île d'Haïti, 1492.
Avec un point-virgule, c'est ça.
Oui, je milite pour la réhabilitation du point-virgule qui est essentiel dans la langue
française. Et après le point-virgule, on a cette
50
phrase.
50 soldats suffiraient pour les asservir tous. Et en vérité, 50 soldats ont suffi pour les anéantir tous. Mmh. Et c'est pourquoi j'ai voulu leur redonner la vie.
Alors, pourquoi, là vous répondez un peu facilement, puisqu'il s'agit d'un livre aussi qui se destine, alors évidemment les adultes peuvent le lire, mais un livre qui se destine aux adolescents, c'est même le nom de la collection Dos à dos.
Oui, aux adolescents.
Qu'est-ce que vous vouliez leur dire? Quel enseignement vouliez-vous leur prodiguer en leur racontant cette histoire?
Je ne sais pas, parce que cette histoire m'a choisie. En fait, de plus en plus, les histoires me choisissent. J'adore donner... Comme j'ai quand même l'art du langage à force, j'adore donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou plus. Et là, je suis revenue dans l'île, je savais que j'avais une nouvelle histoire à raconter, je ne savais pas encore que c'était celle-ci. Donc maintenant, je pense que je suis désignée, il y avait quelque chose là qui me parlait. Vraiment le langage des arbres, justement, de la terre, des océans, des mers, des animaux.
Mais quand vous dites désignée, vous le dites un peu facilement, comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous élit? Qu'est-ce qui vous choisit?
Ah, je ne sais pas, hein, si je m'appelle Élie, c'est pas pour rien. Voilà.
Exactement.
Non, c'est aussi que mon guide là-bas était un jeune homme qui avait à la fois du sang africain et du sang indien, mais c'était évident. Et maintenant, on recherche, les scientifiques recherchent dans l'ADN des gens de l'île, la trace des Taïnos, tout ce qui reste, c'est dans leur ADN. Et en fait, ce qui est passionnant dans cette histoire d'Haïti, c'est que les derniers Indiens Taïnos ont accueilli les premiers esclaves en fuite et leur ont appris à survivre. Donc ça, c'est merveilleux. C'est aussi ça que je raconte dans cette histoire. C'est une histoire de transmission. Et ça se voit, c'est physique et ça se ressent.
Et à la fin du livre, tu racontes une scène presque qui a initié le livre dans une grotte avec ce jeune guide, qui n'est pas Taïno, mais qui est, voilà, et où d'autres envahisseurs, en l'occurrence c'est un bateau de touristes, vient faire trembler le lieu.
Ah oui, c'est terrible ça, les dernières invasions barbares, c'est le tourisme de masse qui me fait horreur. Mais aussi c'est vrai que pourquoi j'ai écrit ce livre, et tu fais bien Timothée de me le rappeler, j'avais oublié, c'est quand j'ai visité ces grottes où les derniers Taïnos s'étaient réfugiés, s'étaient jetés par centaines à la mer pour échapper au sort effroyable qui les attendait, et ils savaient qu'ils allaient se réincarner en oiseaux, et en fait... j'ai vu les dernières gravures et je n'ai jamais rien vu de plus émouvant que cette figure de chouette stylisée. Et j'ai vraiment ressenti mais une secousse, mais ça paraît un peu mégalo, mais une secousse à mon échelle de peuple premier personnel, tellurique. Et je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire bouleversante. Je veux faire passer cette émotion que j'ai ressentie dans cette grotte.
On vous écoute lire, Élise Fontenaille, les premières pages de La dernière reine d'Haïti.
L'âge d'or, 1492. Mon nom est Guaracuya, je suis le neveu d'Anacaona, fleur d'or, notre reine, la bien nommée. Je me flatte d'être son neveu préféré. Là où elle va, je la suis, elle m'appelle son ombre en riant. Si tu n'étais pas mon neveu, tu serais mon petit mari. Partout elle s'élance, notre reine, sur les sentiers, le long des rivières, vêtue de fleurs et de plumes, parée de pétales d'or, son rire l'accompagne. Jamais aucune reine Taïno, depuis la nuit des temps, n'a recélé autant de qualités. Ni aucun roi d'ailleurs. Ceux que dans notre langue on appelle caciques, elle les surpasse tous. Dans les 5 royaumes d'Haïti, la grande île, nulle part on ne trouve son égale. Anacaona règne sur la province du Xaragua, celle qui est située au sud de l'île, entre l'océan infini et la montagne du milieu, bordée au sud par la mer Caraïbe, douce ou féroce selon les jours, terrible ou apaisée la nuit. Et là, en fait, je voudrais finir cette lecture par le lexique des mots qui nous viennent du Taïnos. Quelques mots qui nous viennent des Taïnos. Tabac, hamac, ananas, caïman, ouragan, colibri, patate, pirogue, iguane, papaye, canoë, cacique, cannibale, goyave, yucca, savane, caraïbe, manioc, curare, transmis via l'espagnol le plus souvent. Et je termine sur ce mot destiné aux jeunes, à mes jeunes lecteurs et aux autres. Pensez donc aux anciens Taïnos à chaque fois que vous emploierez un de ces mots.
Alors précisément, Élise Fontenaille, vous employez un certain nombre de termes Taïno dans votre roman, Opia, Duo, qui sont restitués en italique et qui font chatoyer le texte avec ces mots d'une autre langue. Et vous soulignez à la fin, vous venez de le citer dans le lexique, que beaucoup de mots français sont en fait empruntés à la langue des Taïnos. Est-ce que votre livre est aussi... au fond, un petit conservatoire d'une certaine culture. Est-ce que les livres servent aussi à cela, pour les jeunes lecteurs ou pour les vieux lecteurs, à conserver en fait une part par les mots de une trace de ces peuples disparus ?
Je n'aime pas. Oui, l'idée est là, bien sûr. À ce mot de conservatoire, je préférais le mot de restitution. Oui, oui. Mais le langage est un trésor, c'est ma matière, et il y a tout dans le langage, et y compris les derniers Taïnos, par ces mots de tabac et de patate qui sont on ne peut plus courants.
Alors, vous avez fait tiquer tout à l'heure François Place quand vous avez dit « l'enfance est un peuple premier ». Pourquoi ça vous choquait, François Place?
Non,
En riant. Mais vous avez...
Je pensais un petit peu... J'ai toujours un petit peu peur qu'on fasse de l'enfance un monde vraiment à part. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants sont habités par ce qu'on appelle la pensée magique. Ça, c'est une pensée qu'on retrouve dans beaucoup de peuples premiers. Il y a ce très beau livre de Philippe de Scola qui s'appelle « Par de la nature et culture », où il explique qu'en fait, notre vision du monde, elle est vraiment influencée par notre culture profonde. Donc, il y a des gens qui sont totémistes, d'autres qui sont animistes, d'autres qui sont rationaliste, c'est notre cas, et la pensée rationnelle coupe le corps de l'esprit, introduit la pesée, le système de calcul, etc. dans la culture, et donc éloigne le monde, en fait, de, on va dire, de la plante de nos pieds. L'éloigne et le met à distance pour mieux le saisir, alors qu'il y a des peuples pour lesquels il est convenable, il est normal de s'adresser à un animal, mais c'est pas du tout... Je pense que c'est là où les enfants sont peut-être un peuple premier, c'est-à-dire on s'adresse aux animaux, on s'adresse aux plantes, on s'adresse au monde parce que le monde nous adresse quelque chose.
Élise Fontenaille, vous parliez tout à l'heure du choix d'une langue dans la simplification, hein, c'était votre expression. Simplifier, fluidité. Vous parliez d'un ruisseau.
Oui, voilà. Fluidité. Écrire, et bon, vous semblez complètement allumé, ça m'est égal. Écrire est une sorte de transe, vraiment, il faut devenir quelqu'un d'autre. C'est un exercice spirituel. J'adore les premiers jésuites, tu aurais consacré un livre, Le Palais de Mémoire, qui va ressortir en poche. Mais vraiment, écrire est un exercice spirituel. Il faut devenir quelqu'un d'autre, il faut devenir le chemin du langage, vraiment. Le chemin d'un torrent, qui seront les mots, il faut choisir le rythme, mais il évolue aussi. Hein. Je dirais, à ce moment-là, ça fait 30 ans que j'écris, je ne choisis plus, ça se fait tout seul.
Alors, il y a quelque chose que vous choisissez, c'est évidemment votre point de vue, hein, le point de vue que vous avez pris pour raconter cet événement donc tragique, terrible, de cette, vous employez hein, le mot génocide, hein, d'ailleurs, un génocide que vous qualifiez de réussi hein, par les conquistadors.
Guillemets.
Alors, il y a le récit, et puis à la fin, dans la postface du roman, vous clamez, et vous utilisez l'expression, votre haine personnelle pour le conquistador. Pourquoi cette postface à la première personne, à la fin d'un roman pour les adolescents, pour la jeunesse?
Parce que j'adore ça. C'est les Américains qui ont fait ça d'abord et j'adore. Ça éclaire tout à fait différemment un texte une fois qu'on l'a lu. Et j'espère qu'on a envie de le relire pour le capter autrement.
Et alors, je voudrais pour terminer cette émission m'adresser à vous trois et vous demander au fond, quand vous avez dit hein, tout à l'heure qu'il n'y a pas de... Vous ne pensez pas au lecteur, mais quand on s'adresse à l'adulte, quand on s'adresse à l'enfant, est-ce que vous avez envie de revenir, Timothée de Fombelle, par exemple, ou de venir au monde des adultes? Est-ce que François Place ira un jour? Et Élise, qu'est-ce que vous préférez finalement? Où est le plus beau combat?
Ah, pour moi, c'est pour la jeunesse. Mmh. Parce que j'adore rencontrer mes jeunes lecteurs, que j'ai un plaisir fou à rencontrer mes jeunes lecteurs. Mais y compris ceux qu'on dit difficiles, c'est mes préférés en fait. Je suis la reine des Caïras.
Et vous avez l'impression de faire... La reine des Caïras, c'est pas mal. C'est pas un mot taïno.
Qui hein, sait
voilà. Timothée.
On me demandait dans une rencontre, c'était des jeunes adolescents dans un lycée qui me disaient « Mais pourquoi vous parlez toujours de l'adolescence et de la guerre ?» Tout de suite, je me suis dit « Mais bah, parce que c'est la même chose. » Enfin, parce que c'est un combat. Et donc, j'ai très envie de continuer à parler de ça. Mais...
François Place.
Je ne sais pas, Je suis bien là dans ce monde de la littérature jeunesse, donc je n'ai pas envisagé.
Vous ne souffrez pas parfois, c'est vrai qu'on est littérature jeunesse, on rajoute jeunesse comme si littérature ne suffisait pas.
Oui, mais
vous en souffrez de ça?
Non, du tout. Non, je ne souffre de rien. Non, dans cette histoire, non.
Non, c'est une question ensuite d'emballage, vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, mon roman Van Gogh paraît en octobre en folio adulte. Mm. On n'a rien changé. On a juste enlevé le jeunesse de la couverture et il va trouver d'autres lecteurs
mais
aussi.
Mais ça vous plaît qu'on ait enlevé le mot jeunesse?
Non, même pas. Ça m'amuse et j'ai l'impression de faire un mauvais coup.
Élise Fontenaille.
La dernière reine d'Haïti parle autant aux jeunes qu'aux adultes. Hein, je vois bien là dans
Mais qu'on mette jeunesse toujours à
côté
de littérature.
Ah non, moi j'adore. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'écrire pour les deux publics. Et quand je fais des recherches pour un livre adulte, je trouve tellement de choses que j'ai toujours de quoi faire un livre jeunesse avec la même matière.
Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette dernière émission de la saison et consacrée à la jeunesse, au voyage, à l'imaginaire surtout. On en a beaucoup parlé. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Timothée de Fombelle, Toby Lolness, illustré par François Place, c'est chez Gallimard Jeunesse. Élise Fontenaille, La dernière reine d'Haïti, hein, A-Y-I-T-I, c'est au Rouergue. Et François Place, Atlas des géographes d'Orbaé, en deux tomes, en coffret, c'est chez Casterman. Merci à tous les trois. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Lénaïgue Cariou, Charlotte Roux, à la technique Pascal Bénard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7 heures sur la littérature jeunesse, mais avant tout sur la littérature. Merci à vous.